Aujourd'hui, nous recevons donc François de Singly, qui est né en 1948. Il est professeur à l'Université Paris 5 René Descartes et directeur du Centre de recherche sur les liens sociaux au CNRS. Vous pouvez retrouver François de Singly à travers ses livres. J'en citerai trois qui ont rapport avec la conférence d'aujourd'hui. Sociologie de la famille contemporaine, chez Nathan, en 1993. Le soi, le couple et la famille, en 1996. Et enfin, Libre ensemble, chez Nathan, qui est paru en 2000. C'est à vous, François de Singly.
Merci. Vous avez raison, mieux vaut avant. Les transformations de la famille ont été nombreuses depuis le milieu des années 60, notamment le développement du concubinage, de l'activité salariée féminine, du divorce, de nouvelles formes de vie privée. Bon nombre de ces changements s'expliquent en référence à une double modification des rapports de force au sein de la famille. Dans la famille dite traditionnelle, l'homme est le seul individu majeur, la femme et les enfants étant des personnes mineures. Pendant la première révolution familiale, dans les décennies 60-70, la femme est devenue un personnage, une personne ayant obtenu autonomie et indépendance par son travail salarié, par la maîtrise de son corps, par l'accès à l'autorité. Depuis les décennies 80-90, une seconde révolution a lieu. C'est au tour de l'enfant de devenir un individu à part entière ayant des droits. Tous les membres de la famille cherchent à être respectés dans leurs demandes et dans leurs besoins. Petits et grands veulent s'épanouir au sein de la vie privée. Simple à énoncer, ce principe est difficile à mettre en œuvre du fait de la non-similitude entre le besoin des enfants et ceux des adultes. Psychologiquement et socialement est reconnu au premier le droit à une grande stabilité pour leur développement, tandis que la stabilité pour le second est conditionnelle, elle dépend de l'amour réciproque entre partenaires. Un des problèmes les plus importants des familles contemporaines est posé par le divorce, car il requiert une articulation entre des besoins contradictoires. Il n'est pas remis en question, puisque vous le savez, l'opinion publique est favorable à un divorce plus facile, mais il inquiète en même temps en raison des effets éventuels qu'il peut avoir sur les enfants. C'est pourquoi des modèles de sortie de crise conjugale ou des modèles de prévention ont été produits afin d'éviter si possible ces tensions. Dans un premier temps, nous examinerons trois de ces modèles et nous analyserons leurs présupposés. Dans un second temps, nous reposerons le problème, puisque la contradiction n'existe pas seulement entre le besoin des petits et ceux des grands, elle existe aussi entre ceux des adultes eux-mêmes. Avant de dessiner de nouvelles utopies en ce début de siècle, il est nécessaire de comprendre ce que traduit le succès du divorce et ce que les contemporains demandent à leur vie privée. Dans un premier temps, examinons les politiques de lutte contre l'inflation des attentes. L'explication la plus fréquente pour rendre compte de l'instabilité conjugale porte un nom, l'inflation des attentes. Nous demandons trop à notre partenaire et nous sommes alors déçus. L'homme souhaite avoir une femme qui soit à la fois une amante, une bonne épouse, une bonne mère et qui sache concilier vie professionnelle et vie personnelle. Et la femme dessine un portrait masculin comprenant aussi de nombreux traits. Tenir tous ces rôles en même temps est difficile, c'est pourquoi une réforme serait souhaitable dans l'ordre de la vie privée pour limiter le cumul des mandats conjugaux. Il reste à déterminer quelle attente quel rôle doit être supprimé afin que la pression diminue. Premier modèle. Aujourd'hui, avec l'instauration du divorce par consentement mutuel en 1975, la solution retenue consiste à séparer le rôle parental du reste du rôle conjugal. Les femmes et les hommes divorcés peuvent devenir à nouveau conjoints tout en restant parents. Cela revient donc à dissocier le couple en deux niveaux. La précédente union se maintient sous la modalité de l'autorité parentale conjointe, et une nouvelle association amoureuse est possible. Un homme ou une femme divorcée qui revit avec un autre conjoint est polygame. Il appartient à deux couples, le couple précédent, réduit à son expression parentale, et le nouveau couple. Un tel maintien du couple parental au-delà de la dissociation conjugale déplace les données du problème. L'homme ou la femme cumule toujours rôle conjugal et rôle parental, mais dans le cadre de deux équipes. Ils ont deux partenaires différents avec lesquels ils jouent alternativement ces rôles. Cependant, ils s'aperçoivent que le problème n'est pas résolu si leur nouveau partenaire ayant des enfants d'une union précédente, ils doivent devenir beaux-parents, rôle à interpréter à trois, avec le parent divorcé et leur partenaire. De plus, ils peuvent devenir eux aussi, eux-mêmes, de nouveaux parents. Alors l'inflation des demandes monte d'un cran. Par exemple, l'homme doit rester père avec sa précédente partenaire et avec la nouvelle, il peut être conjoint, beau-père et père. Le divorce accroît si bien la pression que certains hommes la refusent en rompant leur relation avec leur précédente femme et les enfants issus de cette union. Ils préfèrent n'investir que dans la nouvelle union avec les trois rôles. Le comportement de tels hommes n'est pas approuvé socialement. Ils devraient continuer à être pères de leurs premiers enfants. C'est ainsi que des associations ont été fondées pour apprendre aux pères à rester pères après la séparation, par exemple en mettant à leur disposition des espaces de rencontre. Une telle condamnation et une telle mobilisation collective reposent sur le principe suivant. Quelle que soit l'histoire conjugale, l'enfant a le droit, si possible, à ses deux parents d'origine. L'intérêt de l'enfant exige que le père et la mère en prennent soin. Ces derniers ont le droit d'avoir leur propre histoire amoureuse mouvementée, et donc le compromis le plus fréquent aujourd'hui est celui qui vient d'être énoncé. L'homme et la femme peuvent se séparer à la condition de rester unis pour assurer leur travail parental. Par cette dissociation, ils obtiennent éventuellement un sentiment de liberté, puisque selon Erwin Goffman, cette impression est engendrée par le nombre de scènes sur lesquelles l'individu joue ses rôles sociaux. Ils peuvent donc se sentir plus libres malgré l'augmentation des contraintes. Deuxième modèle. Toutefois, les gains obtenus par l'invention des deux couples, conjugal et parental, sont d'abord pour les adultes. Les enfants peuvent aussi en bénéficier, cet environnement étant préférable à celui d'une famille au sein de laquelle les parents ne s'entendent pas. Mais la balance penche en faveur des adultes. On peut se demander alors pourquoi la solution proposée par Bertrand Russell en 1929 dans un essai qui fit scandale, Le mariage et la morale, n'a pas été retenue puisqu'elle semble respecter mieux les intérêts des enfants et des adultes. Ce mathématicien et philosophe considérait le divorce, même par consentement mutuel, comme étant un événement négatif. Je le cite. « Le mariage doit être une association destinée par les deux parties aussi à durer aussi longtemps que la jeunesse des enfants. Le mariage est donc une institution qui protège les enfants en priorité du fait de la reconnaissance de la supériorité des droits de l'enfant. La stabilité de leur environnement ne peut pas être remise en question. C'est donc aux adultes, s'ils ne sont pas satisfaits, de régler leurs problèmes sans empiéter sur le droit des enfants. Bertrand Russell dessine dans un autre contexte un projet qui ressemble au modèle du mariage bourgeois pour les hommes du XIXe. Ces hommes pouvaient, contrairement aux femmes, avoir un autre partenaire, une maîtresse relativement stable. La sexualité masculine était dissociée du cadre familial. Les femmes ne le pouvaient pas, elles auraient à une époque où la sexualité féminine était peu dissociée des risques de la reproduction, menacé l'ordre familial et l'ordre social. Le mariage, rappelons-le, a été longtemps en Occident le cadre exclusif de la reproduction du groupe familial. Il permettait de distinguer les enfants légitimes et les enfants naturels exclus de l'héritage. Avec la progressive maîtrise de la fécondité, le modèle masculin peut être étendu aux femmes qui peuvent, elles aussi, avoir une vie double, un mari et des amants. Dans ce modèle, l'adulte a une identité qui n'a pas pour toutes les dimensions la même consistance. Stable en tant que père ou mère en raison des besoins de l'enfant, instable en tant que personne demandant certaines satisfactions émotionnelles et sexuelles en raison donc de ses besoins propres. Bertrand Russell laisse dans le flou la définition de cette seconde vie qui peut être, selon les cas, très turbulente avec une succession de partenaires ou plus stable avec une amante ou un amant plus privilégié. Dans cette perspective, le mariage stable n'est pas adapté aux demandes affectives et sexuelles des hommes et des femmes. Ces derniers se plient aux exigences de l'institution pour le respect non de l'ordre social, mais des enfants. C'est là que réside la seconde différence entre le mariage russellien et le mariage bourgeois. Les adultes ont des besoins qui ne peuvent être satisfaits dans les contraintes d'une monogamie stricte. Ils ont envie de chercher ailleurs. Serge Chaumier propose dans un ouvrage récent, La déliaison amoureuse, avec la notion de couple fissionnel, une version qui peut être rapprochée de celle de Roussel. Il s'agit, je le cite, d'un nouveau modèle relationnel qui s'ouvre sur le 3, d'où le tiers ne serait plus systématiquement exclu. Il défend un mariage ouvert à la manière dont Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ont conclu un pacte. La monogamie doublée de la fidélité exige un trop grand renoncement à la libre expression de soi. À l'époque de l'individualisme dont l'impératif s'inscrit sous la figure de l'homme ou de la femme libre, on comprend que la fidélité peut être critiquée. Le succès actuel de Michel Onfray, avec sa théorie du corps amoureux, peut s'expliquer ainsi. La famille n'est qu'une instance de répression, je le cite. Elle triomphe en auxiliaire récupérateur de la pulsion de l'espèce par l'ordre collectif, là où la libido menace de faire dominer sans partage le chaos, le désordre, la violence d'une énergie brutale et sans loi, la famille fixe, arrête, stoppe, encage le désir en lui donnant une forme socialement acceptable. Désir et vie conjugale font mauvais ménage. Soit on suit Onfray, partisan d'un idéal hédoniste, promouvant le pluriel des relations affectives et sexuelles, soit on suit Roussel, qui opte pour un mariage ouvert au sein desquels les enfants ont leurs parents sous le même toit et chaque parent noue d'autres relations. Le désir, quel que soit son nom théorique, le ça, la libido par exemple, repose sur un modèle énergétique du fonctionnement de l'individu. La vie conjugale avec le devoir de fidélité, rappelé lors du mariage civil, serait contraire aux intérêts de ceux qui signent un tel contrat, puisqu'ils renoncent ainsi à une identité libre. La progressive fusion entre amour et mariage a été réalisée pendant la première moitié du XXe siècle. Cette progressive fusion, excusez-moi, serait une erreur historique. La figure de l'amour, notamment courtois, a été construite contre le mariage, principe d'ordre et de la succession des générations. En s'inscrivant dans l'institution, l'amour crée les conditions d'une double déstabilisation. Celle du mariage lui-même, ne résistant ni à l'usure ni aux coups de foudre successifs, celle de l'amour-passion lui-même aussi, résistant mal à la vie conjugale. Ces deux composantes, amour et vie conjugale, se contredisent encore. Troisième modèle. Amour, passion et vie conjugale relèvent en effet de deux manières de dépenser son énergie. Annie Ernaux le ressent dans Passion simple lorsqu'elle raconte son amour fou avec un homme. Elle remarque « Contrairement à ma façon habituelle de vivre, je jetais facilement l'argent par les fenêtres. Cela me semblait faire partie d'une dépense générale, nécessaire, inséparable de ma passion pour A, incluant aussi celle du temps que je perdais en rêverie et en attente, et naturellement celle du corps. Faire l'amour en titubé de fatigue, comme si c'était la dernière fois. » La romancière ne confond pas son état avec celui qu'elle avait connu auparavant quand elle était mariée. D'un côté, l'amour fou, plus intensif mais aussi plus instable. De l'autre, l'amour raisonnable. Il est significatif que lorsqu'on le demande aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui, aimer quelqu'un, c'est surtout quoi ? Ils retiennent fonder un couple et une famille quatre fois plus souvent que vivre une passion. Ils estiment peu compatible l'union de la passion et de la vie conjugale. Le désordre amoureux mine les fondements d'un couple sur lequel repose une famille. Cela ne signifie pas que les uns et les autres ont renoncé au rêve d'un fol amour, notamment parce que ce dernier constitue toujours une référence dans l'imaginaire romanesque ou cinématographique, référence plus forte que celle de l'amour raisonnable. Cette opposition entre les deux amours se retrouve dans le film Titanic. Rose a eu un grand homme dans sa vie, Jacques, avec lequel elle a noué une relation très brève et intense. Ce fut un temps décisif de sa construction identitaire, puisque cette femme a alors compris qui elle ne voulait pas devenir et qui elle allait devenir. Ensuite, elle s'est mariée à un homme, invisible sur l'écran, avec lequel elle a eu des enfants. À la voir, pendant le film, on pense qu'elle a vécu alors une vie heureuse, sans surprise. On pourrait, en extrapolant, affirmer que la vie de cette femme, en deux temps, reflète d'une certaine façon le schéma proposé par Léon Blum dans son essai du mariage publié au début du siècle et qui connut un grand succès. Pour régler cette tension dont il avait conscience, même s'il ne raisonnait pas dans ces termes, entre l'amour-passion et la vie conjugale et familiale, Léon Blum a proposé en effet un modèle séquentiel. Une première période consacrée à la multiplication des relations sexuelles ou à la passion de l'amour, et une seconde période marquée par un amour que l'on peut qualifier de raisonnable et qui pouvait alors s'inscrire dans le mariage. Il donne comme exemple une femme qui, après avoir connu ce premier temps, aspire à autre chose. Je le cite. « Le jour viendra où elle se sentira fatiguée des agitations, où un besoin de stabilité et de paix se fortifiera de chaque émotion nouvelle. Elle acceptera alors des pensées sérieuses, les actes utiles de la vie, les mêmes qui n'étaient conçus la veille que comme un ragoût de l'amour ou comme un obstacle à l'amour, une maison à tenir et à orner, des relations à entretenir, une fortune à accroître, des enfants à élever, parfois un travail profitable à poursuivre. » Cette vie dédoublée proposée par Léon Blum repose sur un postulat. La passion associée aux besoins d'une forte activité sexuelle concerne surtout les jeunes. En considérant la manière dont ces derniers organisent leur vie privée aujourd'hui, le schéma prend une coloration réaliste. Bon nombre d'entre eux connaissent une activité sexuelle hors couple avant d'avoir une ou plusieurs vies cohabitantes. L'entrée dans une vie plus stable, au sein de laquelle naît l'enfant, arrive ensuite. Toutefois, l'existence de ces deux séquences, assez conformes au modèle bloomien, ne signifie pas que l'histoire s'arrête. En effet, des hommes et des femmes connaissent un second passage non programmé, avec un retour en quelque sorte au point de départ, l'entrée dans une histoire d'amour, éventuellement même plus passionnelle que la première. Léon Blum pensait contenir le désordre amoureux en l'associant à la jeunesse. Il n'avait pas anticipé l'ensemble des effets associés à l'individualisation des individus dans les sociétés modernes, et notamment le fait que le modèle de l'âge adulte serait lui-même déstabilisé. Aujourd'hui, la vie n'est pas représentée par une ligne droite avec des étapes clairement définies. Elle est conçue sous la forme d'un scénario qui peut inclure éventuellement la reproduction de séquences similaires. L'unité de la vie provient moins d'un modèle extérieur, suivre des étapes définies à l'avance, les mêmes pour chacun. Elle se construit progressivement, sans feuille de route préalable, selon les hasards des rencontres et surtout selon les transformations identitaires. Dans un second temps, effectuons un examen plus approfondi des attentes vis-à-vis du conjoint. Ces trois modèles de sortie de crise ont un point en commun. Ils postulent que la stabilité de l'union est une demande principalement externe, celle des enfants ou celle de la société. Ils sous-tendent que pour les adultes, au moins pour une bonne période de leur existence, ce qui prime, c'est la liberté et, si possible, l'amour libre. Il s'agit moins d'une inflation des attentes que d'une tension entre le besoin d'être libre et autonome et le souhait d'une vie à deux. Les femmes seules, interrogées par Jean-Claude Kaufmann dans « La femme seule et le prince charmant », expriment cet embarras. Témoin Gabrielle, femme qui a divorcé. « Je n'ai pas envie d'un mec de passage pour une nuit de sexe sauvage et dangereuse. Je n'ai pas envie d'un mari. Non. Mais d'une présence épisodique, sympa, tendre, aimante, me suffirait. » Quelqu'un avec qui je pourrais à nouveau échanger, parler, vivre. Ces femmes sont à la recherche d'une troisième voie, d'une vie de couple sans renoncement à soi. D'une autre manière, le héros d'un roman de Douglas Kennedy, L'homme qui voulait vivre sa vie, exprime les tensions au cœur des demandes contemporaines, sans trouver la solution. Il est au moment où nous allons le prendre, sur un bateau en pleine mer. Il voudrait continuer, s'échapper, je le cite. Pourquoi s'arrêter ? Nous ne cessons de rêver d'une existence plus libre, tout en nous enfermant de plus en plus dans les obligations, dans les pièges domestiques. Nous aimerions tant partir, voyager léger, et cependant nous ne cessons pas d'accumuler de nouveaux poids qui nous entravent et nous enracinent. La faute nous en incombe parce qu'au-delà du rêve d'évasion, auquel nous ne renonçons jamais, il y a aussi l'attrait irrésistible des responsabilités. La carrière, la maison, les scrupules parentaux, les dettes, tout cela nous remet les pieds sur terre, nous offre cette sécurité tant recherchée. En réduisant inexorablement le champ du choix, cette vie nous accorde le soulagement des certitudes. Alors, même si tous les hommes que je connais enragent en secret d'être tombés dans un cul-de-sac domestique, nous continuons à y entrer et à nous y installer tous. Le besoin de sécurité qu'offre la vie conjugale, la vie familiale, ne concerne donc pas seulement les enfants. Il forme aussi une des attentes des adultes, comme l'affirme le sociologue Anthony Giddens. Et ce besoin ne correspond pas à une attente traditionnelle, appelée à disparaître dans les sociétés modernes avancées. Même si ce sont les hommes et les femmes qui produisent les risques comme conséquence indirecte de certaines de leurs conduites, personnelles ou collectives, cela ne signifie pas qu'ils apprécient en tant que tels ces risques. Ils peuvent chercher à les limiter. Sinon, comment comprendre que malgré l'appel du large, la qualité première demandée pour son partenaire soit la fidélité? La fidélité est perçue comme une assurance contre les aléas de la vie, comme un contrat de confiance qui peut autoriser éventuellement quelques coups de canif, à la condition de ne pas remettre en question la hiérarchie des relations. La sécurité qu'apporte la fidélité, c'est la certitude que quelqu'un vous accorde une grande valeur. Cette fidélité peut être aménagée selon le contrat passé entre les deux partenaires, sans que le besoin qui rend légitime cette fidélité disparaisse. Ainsi, entre Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, il y a l'amour nécessaire et les amours contingentes. Cela apporte une forme de confort utile pour la construction identitaire, comme l'écrit Simone de Beauvoir. Je lui faisais si totalement confiance qu'il me garantissait, comme autrefois mes parents, comme Dieu, une définitive sécurité. Leur pacte semble concilier liberté individuelle et respect de cette sécurité, sauf au moment où Simone de Beauvoir se sent menacée, comme elle le raconte dans La force des choses. Sartre raconte à Beauvoir les bonnes semaines passées avec Dolorès, nommée M dans le livre. Si bien que le castor s'inquiète, je la cite. « Je me demandais soudain s'il ne tenait pas à M plus qu'à moi. Dans une union qui dure depuis plus de 15 ans, quelle part revient à l'habitude ? Je savais ma réponse, pas celle de Sartre. Il m'était plus opaque. D'après ses récits, M partageait exactement ses réactions, ses émotions, ses impatiences, ses désirs. Peut-être cela marquait-il entre eux un accord de profondeur que Sartre n'avait pas avec moi et qui lui était plus précieux que notre entente. Je voulais en avoir le cœur net. Je demandais, franchement, à qui tenez-vous le plus, à M ou à moi ? Je tiens énormément à M, répondit Sartre, mais c'est avec vous que je suis. Simone de Beauvoir en a le souffle coupé, je la cite encore. Je comprenais qu'il voulait dire, je respecte notre pacte, ne me demandez rien de plus. Le doute sur le classement que peut établir Sartre l'atteint au plus profond d'elle-même. On comprend que la sécurité que les parents apportent ou devraient apporter par un amour inconditionnel constitue une demande également à l'âge adulte, y compris de la part d'individus autonomes. La fidélité qui semble un droit de propriété et qui de ce fait peut être contradictoire avec l'autonomie et l'indépendance revendiquées par les deux partenaires conserve un sens non traditionnel qui renvoie à une exigence identitaire. Même dans le cadre d'une relation pure, la fidélité peut exister, les deux partenaires éprouvant le besoin d'avoir la certitude que dans un monde incertain existe au moins une certitude, celle de pouvoir compter pour quelqu'un, de pouvoir compter sur quelqu'un. Aujourd'hui, la forme la plus fréquente pour désigner le besoin de sécurité inconditionnelle est nommée par les hommes et les femmes la fidélité. Cette fidélité s'enracine, nous semble-t-il, davantage dans cette demande réciproque de sécurité que dans le respect de la promesse initiale. Ce besoin de sécurité qui stabilise la vie à deux prend d'autres formes que la fidélité, notamment le confort des habitudes partagées ensemble. Conformément aux hypothèses d'une sociologie constructiviste, le monde dans lequel chacun vit apparaît plus stable, plus sûr, s'il est validé par quelqu'un d'autre. Le besoin de sécurité crée les conditions d'une stabilité conjugale. Il entre en conflit, vous l'avez compris, avec la revendication d'un soi libre. Mais ces deux principes et les tensions qui en dérivent ne sont pas les seuls à engendrer éventuellement une crise conjugale. L'individu a besoin aussi pour exister, pour avoir un certain degré de consistance, d'être reconnu. C'est la base de l'estime de soi. Deux moyens soutiennent une telle élaboration. L'écoute autorisant un travail réflexif sur soi et la construction d'une identité narrative chère à Paul Ricoeur. L'émission de signaux indiquant nettement que l'on prend soin de l'autre et que l'on prend soin de soi. Le conjoint est conçu comme quelqu'un qui doit écouter et qui ainsi permet à l'autre de donner du sens à sa vie éclatée et dispersée et de penser les blessures symboliques reçues. C'est par le récit que l'individu pluriel devient un individu unifié. Le héros d'un roman de Mac Inernay, 30 ans et des poussières, découvre cette fonction du conjoint lorsque son épouse le quitte. Quelques jours plus tard, il est agressé par un homme et il ne parvient pas à l'oublier. Il entre dans un café. Il savoura sa morne solitude. Il n'avait envie d'aller nulle part, ni de faire quoi que ce soit sans Corinne. Il avait envie de lui raconter sa mésaventure dont il venait d'être victime. À qui ferait-il le récit des événements de sa vie si elle venait à disparaître? Qui écouterait ses histoires? À mesure que le whisky le pénétrait, il se dit que le conjoint est une personne qui écoute l'histoire de votre vie et qui, moyennant certaines concessions, choisit de vous croire. Cette demande n'est pas toujours entendue par l'autre. C'est ainsi qu'une femme rencontrée dans une des enquêtes de Libre Ensemble se plaint de son compagnon. On est vite arrivé en fin de soirée. On discute, mais il a du mal à discuter, autant que je me confie. Il faut lui tirer les vers du nez. Son conjoint ne dément pas. Moi, je n'aime pas parler et elle, elle adore. À un moment, je me fais coincer dans un coin. C'est ça, elle ne parle pas beaucoup, mais elle raconte ce qu'elle a fait dans la journée, les petites anecdotes, alors que moi, non. L'homme considère le récit de sa compagne comme offrant peu d'intérêt. Il refuse de l'écouter vraiment. L'identité narrative de sa compagne, l'identité tout court de sa compagne, sera sans doute construite sans lui, avec l'aide de copines et peut-être un jour d'un ami qui lui apportera plus d'attention. On se souvient de la femme en solo qui tout à l'heure évoquait la personne avec laquelle elle voulait revivre, quelqu'un avec qui je pourrais à nouveau échanger, parler, vivre. C'est dans de tels échanges que l'individu a le sentiment d'être reconnu et peut recoller les morceaux du puzzle de son existence. La conversation avec quelqu'un de proche et de stable remplit deux fonctions. Celle de stabiliser le monde dans lequel chacun vit, constituant, on l'a vu, un des supports de la sécurité. Celle de reconnaître la personne avec laquelle on parle. Les échanges, verbaux ou non, répondent alors à la demande de ce que Ling nomme le besoin de confirmation. De multiples indicateurs peuvent le satisfaire. L'important est moins leur forme, c'est le sens que la personne qui les reçoit leur donne. Dominique Rollin souligne à plusieurs reprises dans son journal amoureux combien est attentif son amant Jim. Elle raconte que souvent elle lui demande, je la cite, « Tu te sens bien ?»« Ma fatigue inquiète Jim, il me rassure. » À un autre moment de son récit, elle note. Jim entre dans la grande pièce en ouragan. Intensité de sa question. Est-ce que tu te sens bien ? Officiel ou non, la vie à deux réclame cette attention, des petits gestes qui sont trop fréquemment oubliés. Écoutons Philippe Solers dans Passion fixe, qui lui aussi est sensible à ces détails. Il est en voyage avec son amante. Les voyageurs sont pleins d'histoires, minuscules, battantes, ils sont trop occupés à les vivre pour en parler. Dialogue. Tu es bien ? Oui, et toi ? Très bien. Dors. Rapproche-toi. Comme ça ? Voilà. Tu n'as pas trop chaud ? Non, et toi ? Non. Quelle journée, quelle poussière. J'aime ça. On est loin. Si on ne rentrait pas, on ne rentre pas. Quelqu'un d'extérieur à cette relation pourrait considérer cette conversation sans intérêt, alors que se joue là une des fonctions centrales de la vie à deux, la mutuelle confirmation de l'un et de l'autre, unis par ces échanges. Le rituel du « ça va » fréquent dans les relations assez superficielles intervient aussi entre proches. Il permet de démontrer, en ne l'énonçant que lorsqu'il est utile, l'attention portée, le fait que l'on a remarqué que quelque chose n'allait pas, une fatigue inhabituelle de son partenaire. L'activité sexuelle peut aussi appartenir au registre de la confirmation, à la condition que l'un et l'autre se sentent reconnus, que le rapport de force ne déloge pas cette double reconnaissance, cette pratique devient alors faire l'amour. C'est dans le secret d'une intimité partagée, en toute confiance, que chacun peut se dévoiler et en montrant des dimensions inconnues de sa propre identité à un proche, a le sentiment d'exister plus complètement. Pour conclure, je suis particulièrement en avance, la thèse de... C'est la première fois de ma vie. Pour conclure, la thèse de l'inflation des attentes doit être transformée en thèse de la contradiction des attentes. Pour la plupart des individus contemporains, la demande d'un soi libre et authentique doit se combiner avec la demande d'un soi sécurisé. La liberté des individus unis dans le mariage ou dans l'union libre est nécessaire pour que les hommes et les femmes ne se sentent pas trop à l'étroit dans leurs habits de conjoints. Ils veulent être, en quelque sorte, en casual Friday, afin d'être eux-mêmes. Il s'agit donc d'augmenter le degré de liberté de chacun, à la condition que cet accroissement soit supportable par les deux partenaires, l'un ne devant pas interpréter séparation provisoire associée à une activité indépendante de l'autre, comme une remise en cause de la sécurité ontologique demandée dans la vie à deux. Une seconde tension existe aussi entre la demande d'un soi sécurisé et la recherche d'un soi reconnu. Les habitudes, l'intégration domestique qui crée la sécurité peuvent très bien devenir des protections si fortes que les marques d'attention semblent devenir inutiles, puisque nous sommes ensemble sous le même toit. Pourquoi rechercher plus ? Un des conjoints peut se contenter à un moment donné d'une situation dominante routinière et l'autre non. La logique relationnelle ne se coordonne pas si facilement avec la vie ensemble. D'où l'invention des couples à double logement qui déclarent préserver la qualité de la relation en mettant de côté leur habitude personnelle, réservant ces dernières au moment de vie seule. La contradiction des attentes vis-à-vis du partenaire et de la vie à deux renvoie à la contradiction de la construction identitaire. Chacun rêve de s'envoler, de découvrir d'autres mondes, y compris le sien, sa propre identité profonde, dont une partie est toujours inexplorée. Mais il rêve de le faire à partir d'un arbre généalogique qu'il a reconstruit. Ce n'est pas un hasard si le droit aux origines, en discussion à propos de l'accouchement sous X notamment, est une demande contemporaine. Pour créer son histoire personnelle, pour faire ses propres expériences, pour élaborer son identité narrative, il faut un point de départ, il faut commencer par « il était une fois ». La liberté repose sur ce socle. C'est pour cette raison que les modèles qui n'éclairent qu'une dimension, celle de l'engagement ou de l'enracinement, ou celle de la liberté, aussi séduisant soit-il, ne dessine pas, à mon sens, le futur. L'avenir sera nécessairement sous le signe de la tension, aussi bien à l'intérieur de chacun d'entre nous que dans le cadre de nos relations interpersonnelles. Les politiques proposées pour lutter contre l'inflation des attentes sont illusoires. Aucune recette ne peut exister pour évacuer a priori ces tensions identitaires et relationnelles. Que faire alors ? C'est à chacun d'établir de temps en temps un bilan à la lumière de son expérience et de celle des autres. Anthony Giddens caractérise les sociétés modernes avancées par l'importance de la réflexivité. L'identité individualisée et le cadre de vie optimal au sein de laquelle elle peut s'épanouir tout en respectant ses proches requiert en permanence un tel travail sur soi et sur la relation. C'est le prix de la recherche, de la conciliation entre les trois demandes contradictoires que nous avons vues, que l'homme ou la femme formule pour avoir une vie pleine. Je vous remercie.
Merci François de Saint-Gly. Si vous voulez, avant de passer aux questions, vous voulez peut-être mettre à profit ce temps pour développer un point ou pour...
Non, les questions.
Les questions.
Et alors, à propos de questions, vous avez un très joli questionnaire qui a été confectionné par mon laboratoire, le Centre de recherche sur les liens sociaux, qui se trouve à la sortie. C'est très très bien de le remplir, puisque la mission de l'an 2000 voudrait savoir pourquoi justement... cette université de tous les savoirs, quel est le public, hein, il est intéressant, y compris justement par rapport à la référence à Anthony Giddens, justement quel est le besoin de savoir dans nos sociétés.
Oui, bonjour monsieur. Je crois que moi l'avenir, je vois l'avenir du couple, il réside dans la tendresse, d'après moi avant tout. Alors je voudrais vous poser une question sur qu'est-ce qu'on fait des enfants dans le couple moderne, entre guillemets. Parce que je pense que si les deux parents ont mis au monde quelqu'un, c'est pour le bien de celui-ci. Et à mon avis, le vrai amour doit laisser libre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais.
Merci.
Bonne chance.
Oui, il faut avoir de la tendresse et de la chance. On va commencer. Les mots sont importants. Hein. Je veux dire, effectivement, le mot tendresse est un mot important puisque on l'a vu dans la demande, dans le livre justement, le prince charmant et la femme seule. En fait, la manière dont s'exprime, par exemple, cette sécurité, ce besoin de sécurité, le fait de dormir éventuellement ensemble. Simplement en étant côte à côte, mais dont l'un, par exemple, peut être sur l'épaule de l'autre, c'est perçu justement comme une des expressions de la tendresse, ou à d'autres moments, mais oui, on ne dit pas normalement « viens près de moi » pour... Moi, je ne dis pas ça. Hein. Je ne dis pas normalement, même si je suis de temps en temps théorique, je ne dis pas « viens que je conforte ta sécurité ontologique », non. Ça n'est jamais arrivé. Donc on utilise des mots plus ordinaires et en fait justement ce mot de sécurité qui d'une certaine façon nous gêne, on ne le prononce pas nécessairement. Donc en fait on cherche les manières de l'exprimer. Et l'intérêt du mot tendresse, il exprime, c'est pour ça que je comprends qu'il vous séduit, puisqu'en fait c'est un mot, un geste tendre, c'est un mot qui à la fois nous sécurise, comme un geste tendre de la maman hein, sur un petit bébé là. Qu'est-ce que ça fait ? Petit bébé, il est bien, il est content, il va gazouiller un tout petit peu, et puis, donc ça fait du bien, et en même temps, il se sent justement reconnu, hein, d'une certaine façon. Il y a donc, moi je vous ai différencié les trois besoins, mais effectivement, le plus souvent, le besoin d'être sécurisé et le besoin d'être reconnu se mêlent dans une conversation. On l'a vu, c'est difficile ensuite. Hein. Donc la tendresse... je pense que d'ailleurs on aurait chacun un petit boîtier, voilà un mot qui ferait consensus hein, dans les genres de modèles. À ceci près, puisqu'il faut quand même avoir l'air d'être un tout petit peu critique par rapport à la question, c'est que le mot tendre, ça a un côté un tout petit peu gentil. Je suis tendre avec toi. Ah, oh, c'est pas quand même. Quand, si, lisez vraiment, hein, si vous l'avez pas vécu de passion, lisez Annie Ernaux, Passion simple. Les gestes tendres ne sont pas les plus fréquents dans cette histoire. Donc tendre, c'est bien, mais on est déjà, dirait Léon Blum, dans la deuxième phase. Hein. Ou dans la première de notre enfance. Mais donc, vous voyez bien que sur le fond, la dominante de la tendresse, j'essaye de c'est une pure improvisation, hein. On est d'accord, le jeu des questions. Pour moi, il y aurait donc une dominante quand même, une expression affective, mais dans laquelle le besoin de sécurité, l'enfant, ou le besoin de, je veux dire, de calmer, enfin, vous savez, le retour au calme, un petit geste tendre, après, éventuellement, c'est autorisé des gestes un peu plus hard. Et oui, hard et tendre, c'est quand même pas forcément facile. Le bien de l'enfant. Non, mais ça, cette question est aussi naturellement très importante. Pourquoi c'est plus difficile la famille aujourd'hui que la famille d'hier? C'est ce qui n'est pas vrai, bien évidemment, parce que je ne pense pas que c'était forcément facile pour, par exemple, au 19e, les cadets. Moi, par exemple, 6e de la famille, j'aurais rien eu du tout dans la famille de Saint-Gly, j'aurais été sûrement très content. Les jeunes filles, les sœurs, rien du tout non plus, elles auraient été contentes. Donc dans la famille traditionnelle, il y avait encore plus de déçus que d'heureux. Hein. N'ayons pas la nostalgie de la famille traditionnelle, beaucoup de dégâts. Hein. Il n'y a que dans la famille traditionnelle, il n'y a normalement qu'une seule personne contente, le fils aîné. Donc là, généralement, c'est à ce moment-là que je demande de lever la main. Et ceux-là ont le droit d'être nostalgiques. Les autres, non. Et normalement, vous voyez que quelque part, hein, on n'est pas prêt à retourner en arrière sur ce point-là. Qu'est-ce qui se passe en fait? La famille justement traditionnelle n'était pas faite pour faire le bien de l'enfant. Elle était faite, historiquement, cette famille traditionnelle, elle est faite essentiellement pour le bien de la famille, c'est-à-dire le bien qui est perçu de la stabilité en termes de place sociale. Hein, il y a une succession des générations, il faut que ça se passe le mieux possible pour que justement le fils aîné occupe une position au moins aussi sérieuse que celle de son père. Alors est-ce que c'est le bien de l'enfant? Pas sûr non plus, d'ailleurs entre parenthèses, que les fils aînés étaient si heureux non plus, hein, tout à l'heure. Parce que si ça se trouve, ils sont tombés un peu amoureux, ils avaient comme ça dans leur village rencontré quelqu'un avec qui il se passait un petit quelque chose, et puis leur père leur disait « Cette fille-là n'a pas assez d'hectares, hein, faut penser à celle-là. » Donc, je pense qu'il y avait plutôt 100% de perdants pour pousser. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un intérêt supérieur qui était l'intérêt de la famille, et cet intérêt supérieur était représenté par une personne qui était censée le garantir, qui était le père. Le père, ce n'est pas en tant que père, c'était en tant que représentant de la famille qu'il exerçait son pouvoir. Et les autres devaient s'y plier, à la femme pouvant servir de médiateur entre l'intérêt de la famille, édicté par l'intérêt du père, et pour le transmettre aux enfants, de telle sorte qu'en fait, ils l'acceptent. Ce qui se passe, c'est ce que j'essayais de dire dans l'introduction, naturellement trop brièvement, hein, c'est le fait que, avec la déstabilisation du modèle du dévouement de la femme au service du groupe familial et la montée en puissance de la reconnaissance de l'enfant comme un être non seulement à aimer mais à éduquer, et selon des logiques d'attention psychologique qui sont développées aussi avec le même calendrier à partir des années 60 de manière très forte, en fait nous nous trouvons, et c'est la difficulté, devant une vie privée dans laquelle il n'y a pas de hiérarchisation des intérêts. Il n'y a plus, de mon point de vue théorique, hein, d'intérêt supérieur de la famille. Il y a la famille, elle est toujours à construire, c'est-à-dire à élaborer la meilleure manière de coordonner les différents intérêts. Et c'est pour ça, j'espère que vous avez... que j'étais clair. C'est pour ça que quand j'ai dit la crise de la vie conjugale, c'est en fin de compte la question que je posais, c'était la question de l'articulation, justement, entre intérêts contradictoires. Mais ce que j'essayais de montrer, c'est que contrairement à ce qu'on pense, c'est non seulement compliqué parce que les intérêts de l'enfant, les intérêts de la femme, les intérêts de l'homme, ou les intérêts des partenaires, si on est dans des couples homosexuels, les intérêts, en tout cas, des adultes et des enfants et entre adultes, je n'ai pas évoqué les problèmes d'égalité entre l'homme et la femme, vous savez bien que ça n'est pas si simple, que c'est déjà un premier niveau de difficulté dans l'articulation, mais que nous-mêmes, ayant des demandes contradictoires, nous avons aussi, au sein du groupe familial, des contradictions, enfin des besoins tels que nous-mêmes, nous ne savons pas toujours comment les articuler pour nous-mêmes. Et donc, nous ne savons pas d'ailleurs forcément quelles demandes articuler nécessairement vis-à-vis de nos proches. Il n'y a pas que les adolescents qui un jour vous mettent un peu dehors et qui le lendemain, justement, réclament un geste tendre. Hein, sur le fond, les adultes font la même chose. Hein, on a demandé notre autonomie, notre indépendance, et puis en même temps, à ma connaissance, dans la très grande majorité des couples, y compris les couples les plus modernes, la chambre à soi, qui était une grande revendication féministe, et même un sous-ensemble qui pourrait être un lit à soi, n'est quelque chose qui n'existe toujours pas, parce que, par ailleurs, justement, un lit commun, eh bien, c'est une contradiction peut-être, mais c'est quand même agréable, parce qu'on a d'autres besoins. Donc, le jour, je suis autonome et indépendant, et le soir, un peu de sécurité et de tendresse me font du bien. Chacun a son côté dans le lit, on ne va pas à bord, si vous voulez. Bon, une deuxième question. Non, mais je reviendrai sur le problème de la place dans le lit. Vous avez raison. Non, mais c'est quand même intéressant, hein, parce que dans l'enquête dans Libre Ensemble, dans une des enquêtes, effectivement, on observe, et c'est que, alors qu'autour de la table, on peut encore bouger, dans la salle de séjour, on peut encore bouger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de place, même s'il y a une assez grande stabilité quand même. Mais enfin, bon, c'est toléré. Je crois que peut-être un couple, dans mon enquête, se pose la question éventuellement chaque soir de où ils vont coucher. C'est d'ailleurs un moteur éventuel pour être le premier. Il y a une femme comme ça qui prend sa revanche, que dans la journée, elle a l'impression de ne pas avoir assez sa place. Il prend toujours toute la place. Alors le soir, elle dit, moi je me couche le premier, notre lit est étroit, et je prends toute ma place, et il lui en reste une toute petite. Là aussi, on retrouve un rythme jour et nuit. Ben, il faut bien, hein, prendre. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est que justement le lit à soi et le comment dire, dans le lit pas à soi, mais dans le lit commun, on trouve une place qui généralement est stable. Et en fait, personne ne dit je cherche une place stable. Et alors, ce qui est intéressant dans les entretiens, c'est les contradictions. C'est-à-dire, en fait, alors on dit oui. Bon, c'est parce que je suis le premier à me coucher, donc c'est normal, je me mets plus loin du mur. Puis après, trois minutes après, vous découvrez que cette personne se lève le matin, la première aussi, donc il faut qu'elle enjambe, et de toute façon, elle réveille son conjoint. Donc, de toute façon, y a très peu de justifications tellement convaincantes. Non, je pense que grâce à cette conférence, parce qu'il y a des effets dans le savoir réflexif, ce soir, quand ceux qui coucheront à deux, il y en a un qui dira « Eh, moi, je prends le mur, sécurité ontologique oblige. » Mais dans ce modèle-là, je vous signale qu'à ce moment-là, si le mur vous sécurise, demandez quand même à votre conjoint si ça le sécurise aussi, parce qu'à ce moment-là, il faut mettre un lit entre deux. Enfin, travailler la question, quoi.
D'autres questions, monsieur ?
Bonsoir. J'ai envie un peu d'essayer d'être un peu sérieux avec, avec la famille, parce que je crois que c'est un problème très important. Et je veux revenir sur Léon Blum, la séquence de Léon Blum, passion, raison. S'il a fait précéder la passion sur la raison, peut-on faire précéder la raison sur la passion ? Léon Blum me dirait non, car entre-temps, il y aurait des enfants. Moi, je dis, si l'ordre est important quant au résultat, comment ne pas douter de la passion influerait sur la raison ? Et dans ce cas, la pilule favoriserait la stérilité, fait avancer l'âge de la ménopause, la névrose, bref, une inadaptation totale à faire une famille. Après coup, on se justifie à la recherche d'une identité quelconque. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a plus de famille. Alors
attendez,
que...
Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, oui. Non, les énoncés importants, n'allez pas trop vite.
Oui,
dans
alors
le
que...
Pas. Vous dites qu'il n'y a plus de famille.
Il n'y a plus de famille actuellement, disons que...
C'est vous qui c'est le dites. Saccagé,
oui. Alors que je considère, moi, personnellement, la seule école qui donnerait la maturité de la vie au même titre que n'importe quelle école de sciences empiriques. C'est le seul cadre où l'équilibre humain peut être à son optimum. Et pour ce faire, il faudrait un mariage solennel, une assise psychologique pour marquer une volonté réitérée de franchir un cap dans la vie. Et cette solennité, c'est le début ou bien de la réussite ou bien de l'échec de la sexualité.
Merci. Merci. C'est normal, hein. Ah, faut pas. C'est toujours comme ça. Je veux dire, la probabilité, il faut pas. Non, mais là, c'est du off, hein, c'est une deuxième version. Je ne réponds pas pour l'instant, je commente légèrement. Je veux dire, le modèle Onfray, les partisans de Onfray, c'est-à-dire les gens anti-famille, ça existe. Ils ne sont pas là. D'accord ? Ils ne sont pas là, donc, en tant que tels, en termes de probabilité. Enfin, j'ai l'habitude relativement de faire des conférences et tout, donc on a beaucoup plus souvent des plaidoyers pour la famille que la famille stable, celui qu'on vient d'entendre, que des plaidoyers dans l'autre sens. C'est pour ça que moi, j'ai plutôt insisté sur l'autre côté, afin de vous faire réagir. Ça a marché, c'est tant mieux. Alors, Léon, l'inversion, la raison et la passion, pour l'instant, c'est vrai, l'autre jour, dans un entretien, il y a une femme qui m'a dit... En fait, effectivement, qu'elle a inversé. Remarquez, ça ne va pas du tout vous plaire, cette histoire-là, mais je ne la raconte pas pour vous. C'est une histoire affreuse. Donc, cette femme, elle a fait des enfants, parce qu'elle trouve que c'est important, des enfants. Bon, mais elle n'est pas vraiment tombée amoureuse des hommes avec qui elle a fait ses enfants, donc elle élève seule ses enfants. Mais alors, je lui ai posé la question, mais... Et l'amour, tout ça, enfin bon, et tout. Elle dit, quand j'aurai fini d'élever mes enfants, alors là viendra, donc vu la manière dont elle les a fait, on peut penser 50, 60 ans, alors sera venu le temps de la passion. Donc, ça arrive hein, de plus en plus souvent, hein, j'ai insisté. Je suis frappé depuis quelques années par les histoires de séparation suite à de nouvelles grandes histoires d'amour qui viennent... au troisième âge. Après la retraite, que faire ? L'université, tous les savoirs, oui. La passion, encore plus. Bon, alors, attention, parce qu'on avait une question sérieuse. Et je la prends au sérieux. Elle est très importante, j'ai fait répéter l'énoncé pour pas qu'on me dise que je suis malhonnête dans mon interprétation. Il n'y a plus de famille. Ça, c'est un énoncé, un sérieux. Ce qui est intéressant. Vous avez raison, puisque la définition de la famille, quand on l'utilise en son nom, c'est une définition personnelle. Vous avez une définition de la famille, telle que je l'ai entendue, effectivement, vous êtes déçu. Déçu, c'est-à-dire qu'il faut chercher... elles sont ultra minoritaires, sans doute, les familles qui correspondent à vos vœux. Alors, comment dire, en tant que sociologue, non pas en tant qu'idéologue d'une certaine façon, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre, et c'est vrai que là je ne l'ai pas développé, donc je suis parti pour une deuxième, conf 2, hop, il faut se demander pourquoi tout ça. Il ne faut pas croire que c'est uniquement parce qu'il y a eu le mouvement des femmes et puis qu'il y a eu une convention internationale de l'enfant. La Convention internationale de l'enfant, où la femme qui vient d'être nommée défenseur des droits des enfants, ça exprime tout autre chose, et bien plus que du juridique ou même de la politique, de longs et de profonds mouvements souterrains dans notre société. L'élément le plus important, selon moi, sociologique, c'est le fait que dans les sociétés traditionnelles, nous sommes dans des sociétés dans lesquelles l'enjeu d'une génération à l'autre, comme je l'ai dit, c'est de reproduire les familles, mais des familles dans lesquelles le capital est défini par une terre, une boutique, un magasin, une entreprise, quel que soit le niveau. Dans cet ordre-là, on le voyait bien, je veux dire, si vous avez un champ et que vous le cassez en quatre, parce qu'il y a quatre enfants, ça fait quatre lopins. Hein, et ça ne fait pas quatre familles de même niveau. Donc on voit bien qu'il y a eu toute une logique dans laquelle justement le capital était extérieur, il était familial, et il pouvait se passer d'une famille, pas d'une famille à l'autre, mais d'un membre d'une famille à l'autre. Hein, quand par exemple le frère aîné mourait, eh bien, c'était le frère cadet hein, qui pouvait succéder. Le mariage arrangé est du même ordre. Il reste encore au début de ce siècle. J'ai entendu dans des entretiens quelqu'un me dire... C'était un frère cadet. Mon frère aîné m'avait dit, avant de partir à la guerre de 14, si je disparais, je te demande de te remarier avec ma femme. Ah ben comme ça, on est sûr. Ça, on est dans la stabilité. Là, il y avait de la vraie famille. Ah ben non, mais il faut prendre les choses au sérieux. Hein. La logique affective ne prime pas, parce que ça, il ne lui demandait pas... mais il lui demandait la stabilité conjugale devant renforcer la stabilité justement de la famille. C'est un modèle extrêmement cohérent. J'espère que vous n'avez vu aucune critique de la famille traditionnelle en tant que sociologue, puisqu'elle est parfaitement adaptée à certains types de sociétés. Le seul problème, c'est que dans les sociétés occidentales, nous sommes rentrés dans des sociétés qu'on appelle des sociétés salariales, des sociétés de marché, dans lesquelles justement... Nous ne sommes plus définis par la propriété familiale, mais nous sommes définis sur le marché en tant qu'individu. Et en tant qu'individu ayant une ressource particulière qui est notre diplôme, le plus souvent. Ici, un capital qui est justement personnel. Donc l'individualisation, qui est complètement souterrain à tout ce que je vous ai dit, a un socle objectif hein, qui est cette organisation de la société. Et donc, pour revenir à une vraie famille, entre guillemets, à la famille d'avant, il faut supprimer le marché, supprimer l'école, supprimer l'amour et revenir à une France rurale. Si tel est le programme, inscrivez-vous, il y a des feuilles à la sortie. Mais pour l'instant, en tant que sociologue, ça peut être un programme... Mais je veux dire, ici, ma conviction, c'est que pour l'instant, il y a des tensions contradictoires, mais pour l'instant, je me semble que l'histoire, disons, d'individualisation, de la logique, du marché, n'oublions pas qu'en ce moment, on nous parle plutôt de mondialisation. Donc, on est dans une phase encore accentuée de cette logique du marché, que par rapport à ça, la logique... de la construction de la famille traditionnelle. Comment dire, pour vous répondre, les conservateurs du 19e avaient quelque part raison, d'une certaine façon, lorsqu'ils disaient qu'il y avait justement une cohérence entre la famille et la société. On ne comprenait pas toujours. Mais ils exagèrent. Enfin bon, il y a des sociologues qui ont dit, mais non, ça ne va pas du tout ce continuum. Moi, ma thèse est conservatrice de ce point de vue-là. À société traditionnelle, famille traditionnelle, à société moderne, famille contemporaine. Donc, en tant que tel, il n'est pas possible de promener de n'importe quelle façon et on choisirait dans le magasin le modèle de la famille qui nous conviendrait le mieux, peut-être à titre personnel. En tant qu'individu, vous avez totalement le droit, en tant que croyant, vous avez totalement le droit d'avoir des systèmes de valeurs qui peuvent tempérer un modèle dominant, mais comme vous le savez, ce modèle lui-même s'est modifié. Juste un tout petit exemple, pour ceux qui auraient par exemple une culture catholique, il y a toujours quelques-uns dans une salle sur la famille, hein, allez dans les musées, hein, et vous voyez que nous n'avons pas la définition par exemple de la Sainte Famille s'est modifiée au cours de l'histoire. Que dans certains tableaux, il y a Saint-Jean, puis à un certain moment, blanco, il n'y a plus de Saint-Jean. Ah, c'est pourquoi ? Parce que la définition dans la société à ce moment-là considérait que justement les cousins, les autres membres ne font plus partie et qu'on s'est resserré à la famille conjugale, entre guillemets. Famille conjugale, entre guillemets. Et donc, on a plus, à ce moment-là mis plus que Jésus avec Joseph et Marie. Mais au début, il y avait plus de monde. Parce qu'en fait, avant, il y avait aussi plus de monde, c'est normal. Donc, en tant que tel, nos systèmes de représentation, y compris dans lequel on met des valeurs, sont bien obligés de faire avec aussi l'ensemble de ses forces. Pour terminer sur la question du mariage solennel, comme vous le savez, le mariage est loin de s'être effondré, il y a encore beaucoup de mariages. Il existe beaucoup de mariages religieux, il existe toujours beaucoup, naturellement, plus de mariages civils, puisque lui est obligatoire avant le mariage religieux. Ce qui est intéressant ici, en tout cas par rapport, me semble-t-il, ça ne sera pas forcément une réponse qui vous satisfera, mais en termes d'avenir, contrairement à ce que j'ai pensé et à ce que d'autres sociologues ont pensé à un certain moment, on pensait qu'en fait, à partir des années 70, c'est dans les années 70 quand la cohabitation est apparue, certains sociologues ont dit cohabitation juvénile, qui n'était pas un terme très très favorable, parce que le mot d'avant sur les sociologues, il faut quand même le savoir pour ceux qui... On disait délinquance juvénile. Donc il y avait une petite connotation, bon, ça leur passera, et puis quand ça n'a pas passé, on a changé le concept, hein. Il n'y a pas que les tableaux dans les musées qui changent, hein, les concepts en sociologie aussi. Donc on a rayé juvénile et on a dit cohabitation. Et puis à un moment donné, on a dit, ben non, c'est tellement fort la cohabitation qu'à ce moment-là, on s'est mis à écrire, c'est si fort que le mariage va disparaître. Et un certain nombre de personnes étaient convaincues. Ma première réaction à mon cours à la Sorbonne, c'est à la sortie, j'ai des étudiants qui m'ont dit, justement, il n'y a plus de famille, comment vous faites votre terrain ? J'aurais dit ça va, hein, pour l'instant. Et donc, en fait, non, nous avons un mariage religieux, enfin, plusieurs mariages religieux, hein, mais un mariage religieux qui, le mariage catholique, je vous le rappelle, n'accepte pas le divorce. C'est à notre disposition. On a le mariage civil, et sans doute sous plusieurs formes, bien que le ministre actuel, hésite. Mais... il y aura une pression et on aura un mariage, il y a déjà un divorce, je ne sais plus si j'ai dit mariage, mais divorce, ça revient au même, hein, parce que c'est la sortie qui détermine la nature du mariage. Donc il y a un mariage -divorce par consentement mutuel, un mariage divorce par faute, et il y aura normalement un mariage divorce, on pourrait dire civil, ou en tout cas sans intervention contractuelle, complètement contractuelle, puisqu'il n'y aurait pas d'intervention professionnelle. Il y a le PACS. Il y a le PAX. La question n'est pas forcément d'un match, et il y a le nom libre, hein, ça, personne ne l'a décrété, mais on a su se l'approprier. Et de mon point de vue, si on a bien compris nos différents types de besoins, qui sont pondérés suivant nos propres périodes de notre existence, premièrement, mais qui sont aussi tempérés en fonction de nos propres choix, par rapport à notre histoire familiale, il est évident qu'y compris la manière dont on articule la continuité, l'intérêt de l'enfant, la mesure de comment on le pondère par rapport à l'intérêt des adultes, etc., ça a à voir avec nos systèmes de croyances. Que la fidélité, c'est pas aussi, j'ai pas le temps, mais c'est croisé avec des variables sociales et des variables idéologiques. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, chacun d'entre nous, c'est un peu le paradoxe d'une certaine façon, de mon point de vue, un hommage aux sociétés contemporaines, c'est que le mariage solennel va rester à notre disposition à la condition qu'il existe d'autres formes, de telle sorte qu'effectivement, y compris ceux qui veulent vivre à deux et qui choisissent le mariage solennel, eh bien, à ce moment-là, le mariage solennel aura un sens. Beaucoup plus de sens, de mon point de vue, que lorsqu'il était totalement obligatoire, parce que sinon, on ne pouvait pas vivre à deux, sinon on était dans l'ombre ou rejeté de sa famille. Donc, en tant que tel, la liberté qui peut effrayer certains est un modèle qui ne déstabilise pas, elle déstabilise quantitativement, mais de votre point de vue, rien ne vous interdit, il est à votre disposition, ce mariage solennel, faites en sorte qu'il soit le plus solennel et qu'il vous réussisse, je vous le souhaite, mais laisser à d'autres éventuellement le soin d'autres pondérations et d'autres expressions dans leurs besoins. Il me semble que l'intérêt des sociétés démocratiques et modernes avancées sont d'être des sociétés tolérantes, c'est-à-dire d'autoriser justement plusieurs formes de vie privée à la condition qu'il n'y ait pas d'intérêt d'où l'intervention de l'État de plus en plus grand. L'État intervient de plus en plus, comme vous le savez, dans la vie familiale. C'est un des paradoxes que soulevait déjà Durkheim, fin du 19e. Pourquoi ? Parce qu'il est le garant du respect des différents intérêts en jeu. Hein ? Premier rôle qu'a Claire Brisset, défenseur des droits de l'enfant, elle pourra être alertée par les enfants eux-mêmes. Quand on réfléchit à ce que ça veut dire, des gens qui se réveilleraient aujourd'hui quand on entendrait ça, ils diraient, c'est pas les enfants qui vont téléphoner, allô, mes parents, etc. Oui, ben oui. À un moment donné, s'il n'y a pas de bonne articulation par l'une des parties, eh bien, il y aura un arbitre. Donc, on va éventuellement, de plus en plus, toujours, quand j'ai dit il y a trois intérêts, j'aurais dû ajouter le fait que lorsque la régulation ne se fait pas de manière harmonieuse au sein de la famille, il y a à ce moment-là intervention de juges et d'arbitres, d'où le développement de professionnels qui se développent toujours plus à chaque fois que nous passons d'une étape de la famille contemporaine à une autre.
Je crois qu'il y a...
Vous avez raison, hein. Mais comme il n'y a pas de non plus, à ma connaissance, il y a un service des droits des femmes en France, il y a un service, ça ne va pas être démagogique hein, ce que je dis, mais il y a un service défenseur, maintenant il y a une institution hein, indépendante qui s'appelle Défenseur des droits de l'enfant. Il n'existe pas, à ma connaissance, au niveau gouvernemental, de défenseur des droits de l'homme.
Des parents.
Non, j'ai compris votre question. Je disais que avant même de penser aux parents, il y a, puisque j'avais défini trois personnes qui ont des intérêts à défendre, donc en tant que tel, il est vrai qu'historiquement, je vous fais la réponse telle qu'elle existe aujourd'hui, il est clair que ce sont, entre guillemets, ceux qui historiquement ont été mineurs, ou dans un autre langage, dominés dans l'histoire de la famille, qui ont, pour l'instant, les organisations de défense. Mais à terme, en termes de régulation, vous avez raison. On le voit sur le divorce par consentement mutuel, puisque dans le cadre du divorce par consentement mutuel ou dans le cadre du divorce, l'homme et la femme ont le droit à un défenseur et non pas simplement, l'être historiquement qui aurait été mineur. Donc oui, je sais bien à quoi vous faites allusion, qu'il y a des parents battus, par exemple, ça existe. Hein. Il faudra bien se poser ces questions-là. Eh bien, on se les posera. Rien ne vous interdit de militer un peu. Il faut demander, hein, je veux dire. On est dans une société dans laquelle, comme vous le savez, les droits ne sont jamais automatiquement attribués. Hein.
Une dernière question de madame.
Oui, je voudrais savoir où vous placez l'enfant, justement, dans ses droits à intervenir, d'une part, et à savoir, d'autre part. Vous avez dit quelque chose à propos de la filiation. Il faut avoir une histoire pour avoir une identité. C'est un petit peu réducteur pour les enfants qui ne savent pas qui sont leurs parents. Enfin, je pense qu'on peut se construire une identité sans savoir toujours quel est le parent, d'une part. Et puis d'autre part, justement, dans les couples qui se séparent, quelle est la puissance d'intervention de l'enfant en dehors d'une puissance informelle?
Non, vous avez raison, la question. J'ai un tout petit peu insisté dans l'autre sens. C'était de manière, provocatrice, pour la raison suivante. Sur les problèmes de filiation, au moment, notamment, puisqu'il y a eu déjà des débats, y compris à propos du Pax, mais derrière, par exemple, sur les familles homoparentales, c'est-à-dire un enfant élevé par deux parents de même sexe, un certain nombre de personnes ont dit que ça n'est pas possible. Un enfant doit avoir le droit à deux parents de sexe différent. Et jamais la loi française, tant que je serai vivant, n'acceptera d'inscrire ça. Simplement, ce que je voulais souligner, c'est que quand vous lisez la totalité, donc ici, ça voulait dire un enfant a le droit à, normalement, ses deux parents, et des parents qui ont normalement, idéalement, justement, un sexe différent. Or, en fait, comme vous le savez, dans la loi française, on a premièrement le fait que la possibilité pour un parent, pour un homme ou une femme seul, d'adopter. Donc dans la loi française, on a accepté qu'un enfant pouvait être adopté en adoption plénière par un seul parent. D'où, comment ça se fait que là, tout d'un coup, d'où, par exemple, donc un enfant élevé par une femme, c'est possible, un enfant par deux femmes, bonjour les dégâts. C'est quand même extrêmement difficile à argumenter. Je continue, ça n'est pas fini. L'accouchement sous X, qui nous a été revoté il y a que quelques années, est une vieille lune française, hein, puisque c'est une caractéristique française et luxembourgeoise au monde. Nous avons inventé quelque chose qui est un enfant qui a été fabriqué par un homme et une femme. Cette femme peut accoucher dans l'anonymat le plus complet, de telle sorte que l'enfant n'aura jamais la possibilité de remonter à son origine. Donc ici, on nous dit un enfant a le droit à deux parents, les mêmes hein, qui ont voté les textes, hein, je peux vous donner les noms. Des mêmes, hein, qui sont contre ça, qui disent jamais on votera un texte avec un parce qu'un enfant a droit à deux parents, et c'est eux qui ont été les tenants de la loi sur l'accouchement sous X. C'est les mêmes qui ont inventé et prôné comme forme d'adoption la meilleure, l'adoption plénière. Dans l'adoption plénière, non seulement on supprime dans certains nombres de cas les parents d'origine, même s'ils sont connus, mais par exemple on change même le prénom de l'enfant. Donc déjà, il change de nom, il change même de prénom. Et oui, on a le droit. Parce que c'est blanco. C'est autorisé. Donc, on est simplement, vous avez, donc je vous remercie de votre question. À mon avis, votre question est centrale. Il est certain que nous allons, nous n'avons pas fini, nous commençons seulement la question des droits de l'enfant. La question des droits de l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la confusion, et quand je parle de la, elle est déjà dans les textes, hein, c'est-à-dire, on a tout et son contraire défendu par les mêmes personnes. Et c'est pas fini. Si je reprends sur l'accouchement sous X, toc, ça sort. Genre, je ne me rappelle plus, il y a pourtant quelqu'un qui est en thèse avec moi. 83, je crois. Mettons. Dès 84, les colloques ont commencé pour dire c'est pas possible, etc. Donc, de telle sorte que vous voyez qu'ici, c'est un problème qui est totalement central, hein, qui est. Quand j'ai dit la question des intérêts à articuler, moi j'ai essayé de vous montrer, bon, j'ai eu plus de temps, remarquez, bon, mais j'aurais pu en mettre plus. Mais ce que je voulais dire, j'ai étudié certaines difficultés d'articulation. Mais votre question est encore beaucoup plus terrible, c'est que le contenu de qu'est-ce que c'est que l'intérêt de l'enfant, qu'est-ce que c'est que l'intérêt de l'homme, qu'est-ce que c'est que l'intérêt de la femme, c'est la confusion extrême, puisqu'il n'y a pas de consensus. Puisqu'à un moment donné, si on pense sur la France, et c'est intéressant, la psychanalyse qui est pourtant un grand référent dans notre société, un grand principe de norme, hein, vous avez la loi en 83 a été produite dans l'ombre par une femme psychanalyste et combattue en 83 et depuis en 84, dans l'ombre entre guillemets, par une femme psychanalyste. Donc c'est la même discipline. D'où ça nous rend relatif sur le savoir, je vous l'accorde. C'est la même discipline, puisque c'est elle qui édicte les normes, et ça veut bien dire qu'au sein même de la discipline, il n'y a pas, mais remarquez, hein, il suffit, en sociologie non plus, il n'y a pas de consensus sur ce que seraient les principes normatifs. Donc, votre question, et ça, on va s'y mettre, hein, c'est pour ça qu'il faut... quand j'ai fini sur la réflexivité, en termes de citoyenneté, hein, je veux dire, c'est à nous-mêmes, hein, il ne faut pas le laisser qu'aux experts, même s'il faut les écouter, comme vous le faites si bien, mais il faut aussi intervenir dans la définition de ce que nous pensons être l'intérêt de l'enfant, de l'individu, homme, adulte, femme, etc. La seule chose, la seule certitude de mon point de vue, c'est que on ne peut, c'est l'intérêt de la famille comme intérêt supérieur qui, lui, s'est éteint pour longtemps. Voilà ma seule certitude. Et qui reste tout nu, d'une certaine façon, effectivement, à recomposer nos trois intérêts, à définir, puis à articuler en permanence. Ah, il y a du travail à tous les niveaux de la société. Les experts, les politiques, les citoyens, et quand même aussi chacun d'entre nous quand on rentre chez soi.